Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule « Offrir le meilleur aux enfants » aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. On se retrouve pour un deuxième épisode avec la spécialiste de l'approche Faber et Maslisch, Roselyne Roy. On entend beaucoup parler en ce moment des punitions, du fameux time out, de l'importance de fixer des limites claires aux enfants, et j'en passe. Il était évidemment essentiel pour moi de traiter de ce sujet en illustrant l'inefficacité de ces méthodes avec les cas concrets des résolutions de problèmes de l'approche Faber et Maslisch. Un épisode essentiel en ces temps de grands débats. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello Roselyne.
Bonjour Stéphanie.
Ça fait plaisir de te retrouver.
Ça fait plaisir de te retrouver aussi.
On avait déjà échangé ensemble pour l'épisode numéro 141 sur l'approche Faber et Maslisch, car tu en es la grande spécialiste. On s'était concentré pour cet épisode sur l'accueil des sentiments. Et aujourd'hui, on va parler d'une autre partie de cette approche-là. Comme je te le disais en voix off, il existe actuellement en France beaucoup de débats autour du retour de la punition et notamment la pratique du time out. Donc pour expliquer à nos auditeurs ce que c'est l'enfant laissé seul dans sa chambre. Qu'est-ce que tu penses de cette pratique ?
Qu'est-ce que je pense de cette pratique ? C'est qu'un enfant tout seul dans sa chambre, il peut pas résoudre les problèmes, il est tout seul, il est laissé à lui-même. Très rare qu'un enfant puni par un time-out est dans sa chambre en train de se dire oh, « c'est vrai, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû frapper ma petite sœur ou j'aurais pas dû… » Il est pas en train de faire ce qu'on voudrait qu'il fasse, il est pas en train de faire son devoir d'essayer de comprendre pourquoi il est là, ok? Il est plutôt en train de il est dans la colère, il est dans colère contre les parents ou contre la petite sœur parce que c'est à cause d'elle qu'il est puni, en colère, peut-être contre lui-même si on est chanceux, mais probablement pas. Il va mettre la faute sur les autres et quel mauvais parent qu'il a, elle est méchante, maman ou papa qui me fait ça. Il n'est pas en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il aurait pu faire à la place. OK? Comment il aurait pu mieux agir. Et puis, de toute façon, il ne peut pas tout seul. Autrement dit, ça ne fonctionne pas. OK? Ça aide peut-être à donner une petite pause aux parents. Et puis, on se donne bonne conscience parce qu'on n'est pas en train de le frapper, de l'insulter. C'est vrai, il y a des avantages quand même. OK? C'est des avantages plutôt à court terme. Les avantages à long terme, qu'on veut faire un enfant qui se responsabilise, un enfant qui s'auto-gère, ok, aussi, très important, qui n'a pas toujours besoin de l'autorité à côté pour lui dire quoi faire et quoi pas faire, hein, on veut ça. Alors, à long terme, toute forme de punition, ça fonctionne pas.
Oui.
Ça fonctionne.
Qu'est-ce que l'approche Faber et Maslisch a à nous dire à propos des punitions?
Elle a beaucoup de choses à nous dire. En fait, on a un petit peu sauté. Je vais revenir juste en arrière un peu, Stéphanie, parce que la dernière fois, on a parlé de l'écoute des sentiments. À quel point c'est important, tu vois? Et dans l'approche Faber-Maslisch, ben, on y va par thème. Okay? Donc, c'était le premier thème, c'était le plus important. Le deuxième thème qu'on a sauté, mais je comprends, peut-être qu'on reviendra un autre moment, mais c'est comment faire coopérer les enfants, comment les faire collaborer. Et souvent, si on s'y prend bien à cette étape-là, on n'a même pas envie de se rendre à la punition. On n'a même pas besoin de la punition parce que on a des enfants qui collaborent. Tu comprends?
Oui.
Alors, c'est pas le thème d'aujourd'hui, comment faire collaborer les enfants, mais on a des habiletés, OK, qui vont nous aider à régler les problèmes dans l'œuf avant qu'il éclate.
Ouais.
OK? Parce que quand on est rendu au thème de la punition, c'est parce que là, on a l'impression d'avoir tout essayé. Y compris des façons qui sont pas efficaces de régler le problème, tu vois. On essaie de faire collaborer avec des ordres, avec des menaces, avec la carotte, des promesses de récompense. On essaie toutes sortes de trucs comme ça, puis ça fonctionne pas, puis à un moment donné, pouf, ça nous éclate dans la face, tu vois. Et puis là, ben, on a un gros problème, puis on est épuisé, on est fatigué, on n'en peut plus de cet enfant. Et puis, là, on pense que pour une fois, pour toutes, il faut faire un truc qui va vraiment... On a un peu cette conception qu'il faut que ça fasse mal que l'enfant comprenne. Il n'a pas besoin de faire mal. Ça peut même être une partie de plaisir. Chose étonnante, tu vois. Parce que... Les approches qu'on utilise dans la résolution de problèmes, ça on va en parler amplement aujourd'hui, c'est vraiment où on travaille avec l'enfant à trouver des solutions pour régler le problème, puis ça devient un jeu. Puis non seulement ça devient un jeu, mais c'est beaucoup plus efficace. Efficace non seulement pour régler à court terme, mais à long terme aussi.
Comment est-ce qu'on résout les problèmes avec les enfants alors?
Ben, ça dépend du problème. Du problème. Alors, tu veux que je choisisse un exemple de tout petit?
Ouais.
Un exemple?
Ouais, je veux bien.
T'es beaucoup plus dans les tout petits, toi, OK.
Ouais.
Bon. OK. Je viens à l'instant de... Je me suis dit, il faut que je trouve un truc de tout petit, très plausible et tout ça. Moi, je pense à mon tout petit en haut. Mon tout petit que je garde en ce moment, mais il y a seulement 9 mois. On ne pense pas encore à punir un enfant de 9 mois, tu vois. J'espère, en tout cas. Je ne sais pas, moi.
Oh, tu sais qu'en France, on parle du time-out dès 1 an.
1 an?
Ouais.
1 an, parce qu'on s'attend qu'un enfant de 1 an va réfléchir dans sa chambre tout seul, puis il va sortir de là, il va être tout content. Tu sais, moi, le time-out, je l'ai essayé avec mes 2 premiers enfants. Parce que j'avais appris ça à l'université. J'étais dans le domaine de l'éducation. Et puis, dans le domaine d'éducation, ben, on nous apprenait des méthodes, ce qu'on appelle behavioristes. Et le time-out, c'est une approche behavioriste, OK? Donc, c'est une approche du comportement où on fait fi, on donne très peu d'importance à tout l'aspect psychologique, émotionnel de l'enfant. On écoute tous les sentiments. Je me souviens plus du truc que ma plus vieille avait fait, mais elle avait 5 ans, puis je l'avais mise dans sa chambre, parce que, je sais pas pourquoi. je me souviens pas. Ce que je me souviens, c'est surtout de sa réaction. Elle avait fait une grosse crise. Et j'avais entendu du bruit, tout ça, puis j'étais derrière la porte, puis j'écoutais, puis je me disais, ça fonctionne, elle est fâchée, elle le refera plus, blablabla. Bla, bla. Quand j'ai finalement ouvert la porte pour la laisser sortir, je me souviens qu'elle avait un dessin qu'elle avait fait à la maternelle pour moi. Elle l'avait tout déchiré.
Ah là là.
Ah oui. Elle était vraiment... J'ai vu à quel point elle était en colère contre moi, tu vois. Le beau dessin que j'ai fait pour toi, tiens! Elle était mais en colère contre moi, là. Alors, on n'a pas envie de faire plaisir à quelqu'un qui nous met en colère. Alors, tu sais, c'était normal qu'elle allait... Elle allait réitérer, elle allait refaire un truc pour me mettre en colère à nouveau. En tout cas, juste pour te dire que la différence entre deux enfants, le deuxième, lui, puis là, j'ai arrêté de punir, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu besoin. Je connaissais pas encore Faber-Maslisch dans ce temps-là. Là. Ça, c'est mon avant Faber-Maslisch, c'est mes deux premiers enfants. Le deuxième, j'avais mis en lui aussi, je sais pas, je pense qu'il avait fait... Il avait peut-être fait une coupe de cheveux à mes plantes ou un truc. En tout cas, je l'avais mis dans sa chambre. Et puis lui, j'ai pas entendu un bruit. Rien du tout. Et quand j'ai ouvert la porte puis il est sorti, il avait un grand sourire. En fait, lui, dans sa chambre, il s'était amusé. Tu sais, il avait joué avec ses jouets, tout ça. Puis là, je me suis posé question, je me suis dit, pourquoi ça peut avoir un effet aussi différent sur deux enfants? Ouais. En fait, ça devrait fonctionner avec tous les enfants.
C'est ben oui, oui.
On aimerait une technique, une approche qui fonctionne avec tous les enfants. Mais je me suis rendu compte que ça avait un effet totalement opposé. Lui est sorti avec un grand sourire, comme si de rien n'était. Alors, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve d'autres méthodes. Là, ça marche pas, cette affaire-là. Là.
Tu vois? Ben oui. Ouais.
Alors, au fil du temps, et surtout... Quand j'ai rencontré l'approche Faber-Maslisch, là, j'étais rendue à ma cinquième enfant. Ça a été comme une bénédiction parce que là, c'était comme, OK, maintenant, je sais quoi faire. OK. Alors, ici, dans le livre « Parler pour que les tout-petits écoutent », là, il y a la situation d'une petite fille qui aime vraiment, vraiment bricoler, faire des bricolages. Sauf qu'elle fait ses bricolages par terre, tu vois, dans la pièce où tout le monde est. Et puis là, ben, il y a le bébé, justement un petit bébé qui rentre, le petit quatre pattes qui arrive. Puis là, papa, il est vraiment, vraiment inquiet. C'est papa qui garde. On est la nouvelle génération. Il est vraiment inquiet que bébé va mettre des petits morceaux dans sa bouche. C'est dangereux, tu vois. Alors... il essaie de s'y prendre d'avance, il essaie de demander à sa fille de ranger ses choses avant que bébé se réveille, avant qu'il sorte de la chambre et tout ça. Et puis, ça marche pas, elle n'est pas d'accord, elle devient de plus en plus fâchée contre son papa, il devient de plus en plus fâché contre sa fille. Et puis là, ben, tout ce qu'il veut, c'est la punir, ok? Quand on pense qu'on a tout essayé et puis que rien fonctionne, c'est là que la colère monte. Puis souvent, c'est sous le coup de la colère qu'on veut punir. OK? On sait que la colère n'est pas une bonne conseillère. On le sait pourtant. OK? Alors, ce papa-là, il décide qu'il va plutôt faire une résolution de problème avec sa fille. OK? Puis il y a toutes sortes de règles à respecter dans la résolution de problème. Par exemple, on n'essaie pas de faire une résolution de problème à chaud, dans un moment de crise où on est tous les deux fâchés. OK? On programme la résolution de problème. OK? À tel moment de la journée, on va se rencontrer puis on va parler de ce problème-là. En ce cas-ci, c'est le problème des bricolages par terre de la petite fille qui range pas tout avant que le bébé commence à ramper là-dedans puis tout mettre dans sa bouche, tu vois? Alors, on va en parler un moment où bébé se recouche, on aura du temps, c'est tout ça, on planifie tout ça, puis on s'assoit ensemble, OK. Première étape, puis c'est comme je l'ai mentionné dans notre premier podcast, c'est toujours écouter les sentiments, OK. Du genre, toi t'aimes ça faire tes bricolages par terre, tu aimes... prends toute la place, puis là t'écoutes, ok? Ouais, puis moi, plus tard, je vais devenir une artiste, puis, ok? T'écoutes, puis tu laisses la chance à l'enfant de tout exprimer ses sentiments par rapport à ça, ok? Et puis, Alors, je vais prendre l'exemple ici parce qu'elle est bien, bien faite, OK? Donc, accueillir les sentiments. Là, ici, papa, il dit, ben, je réfléchissais à cette dispute qu'on a eue hier au sujet du rangement. Il a fait, oh, oh, on va encore se disputer. Puis là, il dit, c'est difficile de s'arrêter quand on est au beau milieu d'un projet. OK? On dit, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va marcher. Là, ici, là, ça va bien, là, OK. Puis, ouais, il dit, oui, j'avais presque fini, en plus. Puis là, papa, il dit, tu voulais terminer ce que tu avais commencé. Oh, vas-y, ouais, je pense qu'il comprend, tu vois, là, aller plus loin, elle veut continuer à parler avec lui, là. Mais là, elle parle encore. Il faut toujours que je sois tranquille quand le bébé dort. Puis j'ai même pas la permission de faire mes bricolages quand il est réveillé. Là, elle parle de ses sentiments. C'est ça qu'elle vit, elle. Là, papa, il écoute les sentiments. Ouais, parfois la présence d'un bébé, là, c'est pas facile à supporter. Ouais. Elle se sent comprise, tu vois. Ça ouvre, c'est la première étape, c'est écouter le point de vue de l'enfant, peu importe l'âge. OK, c'est juste le problème qui change. Deuxième étape, on va décrire le problème, OK? Là, papa, il dit, moi, il dit, je veux que tu puisses finir tes projets. Le problème, c'est que j'ai peur que bébé s'étouffe avec des petites pièces. Il pose le problème. OK? Puis souvent, il faut que ce soit un problème très précis, très clair, très concis. On ne veut pas, quand on fait une résolution de problème, on ne veut pas essayer d'aborder 10 problèmes à la fois. OK, on va en profiter là. On va régler le problème de dodo le soir, l'heure du coucher. On va régler le problème du matin pour être prêt pour l'école ou pour la maternelle. On pense que on va... Non, au secours. Il ne faut pas essayer de tout régler les problèmes en même temps. C'est vraiment important d'en prendre juste un à la fois. Alors, on reste concentré ici sur le problème, les petites pièces partout, puis les projets qui commencent, puis qui ne sont pas terminés, puis que les dangers que c'est pour bébé, pour le petit. OK? L'étape d'après, c'est chercher des solutions ensemble. OK? Fait papa invite les idées. Nous avons besoin d'idées. Comment pouvons-nous faire pour que bébé soit en sécurité pendant que toi, tu réalises tes projets? Alors là, commence l'idée d'essayer de trouver des solutions. Puis là, trouver des solutions, ça peut être loufoque au début, ça peut être des trucs, vraiment. C'est pour ça que je te dis que au lieu d'utiliser la punition, on peut faire des trucs vraiment plaisants. Moi, je me souviens de ma dernière qui est tombée dans la potion magique quand elle était petite, c'est-à-dire que je connaissais l'approche Faber-Maslich, et puis quand il y avait un problème, j'avais juste à dire « il y a un problème ». Et puis là, elle disait, oh, on pourrait faire ceci, 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 ceci. Elle avait vraiment enregistré que un problème égale, il y a des solutions. OK? Ou si je lui disais, oh, il faut qu'on fasse une résolution de problème là-dessus. Elle disait, oui! Elle savait qu'on allait régler le problème. Tu vois, qu'on allait arrêter de se prendre la tête, elle puis moi, là-dessus. Tu vois? Alors, c'est pour ça que je te dis que ça devient presque un jeu, OK? Puis en plus, ça bâtit la relation de confiance entre l'adulte puis l'enfant. Alors, les idées loufoques, enfermer bébé dans la salle de bain. Un petit peu moins loufoque, dire à bébé de pas s'approcher. Travailler dans la chambre avec la porte fermée, ça c'est une idée de papa. Tu vois, on met nos idées. Souvent, quand on fait une résolution de problème, on essaie autant que possible d'attendre que l'enfant donne des solutions.
Ouais.
Après, on parle des nôtres. L'étape d'après, ça devrait être choisir qu'est-ce qu'on garde puis qu'est-ce qu'on garde pas. Ok.
Bien sûr.
Mettre bébé dans son siège sauteur. Déplacer le projet sur la table de cuisine. Okay. Donc, c'est les idées. Les enfants adorent, les petits-enfants, ils adorent aussi qu'on écrive les idées. Ça fait plus sérieux, tu vois. Alors, on est assis à la table ici. L'image, là, papa est vraiment assis à table avec la petite. Ouais. Et ils sont en train d'écrire. Ils font la liste. OK? Ils font la liste des idées. L'étape 4, c'est décider quelles idées vous aimez tous les deux. On a un compromis. Des fois, le compromis, c'est pas exactement ce que toi tu voudrais ou que peut-être voudrais ou que moi je voudrais. C'est quelque chose sur lequel on peut s'entendre tous les deux. Ça va aller. On va le faire comme ça. OK? Là, papa, il dit, ils prennent les idées une à une, OK? Il dit, ah, si nous enfermons mon bébé dans la salle de bain, là, il va pleurer. Puis là, elle rajoute, ben, nous pouvons lui dire de ne pas s'approcher. Mais il écoute jamais. Puis, en plus, moi, je ne veux pas travailler toute seule dans ma chambre. OK? Ça fait là, ils sont en train de dire pourquoi ils ne veulent pas telle ou telle idée. Ouais, nous pouvons essayer le siège sauteur. Il sera heureux d'y être, mais juste pour un moment. Elle dit, je vais mettre des objets par terre pour qu'il les pousse avec ses pieds. Papa trouve que c'est une bonne idée. Puis là, il revient à la dernière idée. Ben, tu pourrais utiliser la table de cuisine. Il faudrait juste la recouvrir avec un papier journal pour la protéger. Puis là, la petite, oui, faisons ça. Alors, à mesure qu'ils ont regardé les idées, tu vois, enfermer bébé dans la salle de bain, ben, non, ils ont décidé que c'était pas bon. dire à bébé de pas s'approcher, ça marchera pas. Elle, toute seule dans sa chambre avec la porte fermée, ça marche pas. Elle veut pas ça. Bébé dans le siège sauteur, OK. Pendant un petit temps, puis elle va lui mettre des jouets pour qu'il puisse pousser. Puis ensuite, déplacer le projet sur la table de la cuisine. OK? La cinquième étape, c'est essayer les solutions. Mettons notre liste sur le frigo pour la consulter la prochaine fois qu'on aura de besoin. Oui, c'est moi qui le fais. OK?
La question qui me vient, et je pense qu'on doit certainement beaucoup te la poser, c'est... Je pense qu'il y a certains parents qui trouvent qu'ils n'ont pas le temps
oui.
de faire tout ça avec leurs enfants. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça?
Qu'est-ce que j'ai à répondre à ça? C'est que si on ne prend pas le temps pour ça, le problème, il se répète. Alors, on perd beaucoup de temps. De temps, de salive, beaucoup de disputes, beaucoup et de mauvais sentiments entre nous et nos enfants.
Ben oui.
Que très, très souvent, moi, les résolutions de problèmes, ça fait 35 ans que j'en fais. Et puis, je me souviens pas d'avoir eu à en refaire une sur le même thème.
Et j'ai une autre question, comment tu appliques cette méthode avec des enfants qui ne parlent pas encore très bien?
Tu écoutes seulement, dans le sens que tu écoutes les sentiments. OK. Avant, tu avais commencé à faire pipi sur le petit pot, puis tu aimais ça. Puis là, tu es revenu en arrière, tu veux plus. Tu trouves que c'est bien plus pratique de faire pipi dans ta couche. Pas besoin d'arrêter de jouer. Ouais! Il n'y a pas besoin de parler beaucoup, il comprend beaucoup, tu sais. Johanna, dans ses livres, elle parle de résolution de problèmes comme ça avec des enfants de 2 ans. Où ça, déjà, ça comprend assez, tu vois. OK? Alors, le problème du pipi sur le petit pot, à un moment donné, elle a dit, oh! Elle a dit, pourquoi dehors tu fais pipi dans l'herbe? Pourquoi? Ah oui, pipi dans l'herbe! Oui, j'aime pipi dans l'herbe, OK? Puis elle a dit, alors, pipi dans l'herbe. Si on mettait de l'herbe dans ton petit pot, qu'est-ce que t'en penses? Oui. elle s'est mise à aller chercher de l'herbe dehors, puis mettre dans le petit pot, puis là, il faisait pipi dans l'herbe dans la maison. Puis ça a marché. Des fois, ça a l'air tellement ridicule pour la tête d'un adulte. Tu
vois,
ben non, ça ne marchera pas. Mais des tout petits, ça leur prend des trucs aussi loufoques que ça, tu vois. Petit, moi je dis à partir de 2 ans, en fait, de la résolution de problèmes.
Et comment faire dans la phase d'accueil des sentiments, justement, quand on est dans cette résolution de problème, pour ne pas faire culpabiliser les enfants? Parce qu'on pourrait très vite dire, tu as fait ça, ça me rend très triste, tu as fait ça, j'ai vraiment besoin d'aller réfléchir, je ne suis pas bien. Comment on fait pour ne pas les faire culpabiliser?
L'étape où tu parles de tes sentiments, contrairement à notre habitude, elle est courte et précise. OK? On ne tombe pas dans les sermons, dans tous ces trucs-là. OK? Habituellement, on inverse un peu ces deux étapes. On n'écoute pratiquement pas les sentiments de l'enfant. Et puis là, on y va encore et encore sur nos sentiments, nous, notre colère. OK? Alors, ici, on invite les parents à inverser, à passer beaucoup plus de temps à écouter les sentiments de l'enfant, jusqu'au moment où l'enfant se sent compris, apaisé. Et ensuite, on parle de nos sentiments, mais de façon brève. J'ai un exemple juste devant moi, là. C'est Marco qui a cassé les lunettes de son ami en jouant à l'école dehors. OK? Alors là, les parents, ils sont très, très fâchés. Ils ont reçu un appel du directeur de l'école pour dire que leur fils avait cassé les lunettes d'un petit garçon à l'école. Alors, on pourrait y aller avec « On te l'a dit un millier de fois, quand tu joues brutalement, tu vas finir par casser quelque chose, blablabla. » OK. On essaie de le faire, de culpabiliser. On essaie de... Ben, c'est un accident. Il essaie de te défendre un petit peu. J'en ai assez que tes excuses. T'es privé d'écran pendant un mois. OK? On y va. Paf! Le gros truc. OK? L'enfant, ses réactions, c'est pas juste. Il est méchant. Je suis stupide. Alors, l'enfant, en plus de trouver l'adulte méchant, il se culpabilise pas, mais il se tape dessus, dans le sens, c'est l'estime de soi qui en prend un coup. Puis si c'est une chose qu'on veut dans la vie, c'est on veut des enfants qui grandissent avec un bon estime d'eux-mêmes. OK? Donc, c'est un enfant qui dit « je suis stupide » ou « je suis idiot » ou « j'ai mal fait », des fois, c'est ce qu'on voudrait entendre, mais en même temps, ça ne favorise pas son estime de soi, là. Au contraire. Alors, c'est un des dangers avec la punition. C'est de vraiment amoindrir l'estime de soi.
Bien sûr.
Avec la culpabilisation, comme tu dis aussi, tu vois.
Et tu aurais un exemple de phrase très courte à utiliser, justement, quand on parle de nos sentiments à nous en tant qu'adultes, pour justement pas les faire culpabiliser.
J'ai les deux parents ici, là, qui disent, le papa, il dit... Nous avons reçu un appel du directeur. Il a dit que tu as cassé les lunettes de Jérémy. La maman rajoute, nous sommes très fâchés. Pour l'expression de nos sentiments, point barre, tout a été dit. On a décrit le problème, puis on a nommé notre sentiment. OK? L'enfant, il veut se défendre un petit peu. J'ai pas fait exprès, j'étais juste en train de jouer. Puis souvent, tu sais, des fois, quand un enfant dit ça, on l'entend même pas. Ici, le père réplique, « Oh, donc tu voulais vraiment pas que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que ça coûte vraiment cher d'acheter des nouvelles lunettes. » Puis là, l'enfant, il commence à sentir quelque chose à l'intérieur. Là, il dit, « Je suis vraiment désolée. »
Oui.
OK. Fait là, on essaie de trouver des solutions. Papa propose, ben, tu pourrais peut-être les payer avec tes économies. Maman a dit, qu'est-ce que tu dirais de trouver une façon de gagner de l'argent? Puis là, lui, il commence à réfléchir. Ah, oh, oui, Ouais, je pourrais nettoyer des cours arrière, je pourrais promener les chiens du voisin. Là, on parle d'un enfant un petit peu plus vieux, tu vois.
Ouais, ouais.
Ok, les parents de Jérémy devraient savoir ce que tu comptes faire et apprendre que tu es désolé. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'aider à leur écrire une lettre. Ok? Alors, c'est vraiment l'enfant qui se responsabilise. Les parents, ils punissent pas, puis ils vont payer une nouvelle paire de lunettes à Jérémy. L'enfant fait partie de la solution. L'enfant aide à trouver des solutions.
Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire sur les punitions? Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aurais peut-être oublié de dire, que tu aimerais transmettre à tous les parents qui nous écoutent et qui pensent que, évidemment, bah, ce n'est pas la solution préférable, mais pour eux, souvent, la solution la plus rapide dans un quotidien très chargé. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Je vais finir avec un mot de Johanna, de son dernier livre.
Ah ben voilà.
Comment les enfants n'écoutent pas? A dit que les pour et les contre la punition. Les pour, ben c'est la coutume, tout le monde fait ça, tout le monde punit. Ça satisfait le besoin de se venger. Quand on est en colère contre un enfant, à quelque part ça nous fait du bien à nous. Ok. Ça peut même être des occasions d'utiliser la créativité en imaginant plein de conséquences logiques. Parce que là, la nouvelle vague, c'est les conséquences logiques maintenant. Tu sais, les conséquences logiques, la punition, c'est la même chose. Et un des pour aussi, c'est qu'il faut faire quelque chose. On peut pas laisser les enfants faire tout ce qu'ils veulent, des enfants rois, et puis, ok. Ça, c'est les pour. En fait, les contre, il y en a juste un. C'est que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça met des enfants de plus en plus en colère contre les parents. Les parents. Il y a des études, elle parle dans ce livre-là, des études qui ont été faites. Les enfants qui sont punis ont beaucoup plus de chances de réitérer, de refaire la même chose ou de faire pire encore ou faire autre chose. Donc, si on veut créer des futurs petits hors-la-loi ou tout ça, ben, on peut continuer à punir nos enfants. Si on veut créer des enfants responsables, des enfants qui peuvent assumer la responsabilité de leurs actes, de leurs méfaits même, et leur apprendre à réparer en plus, on est en train de créer une société nouvelle, quelque chose de vraiment bien.
Ben ouais, je suis bien d'accord. Et on va se quitter sur cette très belle phrase. Merci beaucoup, Roselyne. Et j'invite, comme d'habitude, mes auditeurs à aller voir tous les magnifiques livres de Faber et Maslisch aux éditions du Phare. Et évidemment, de suivre tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux et même de se former auprès de cette belle communauté et de ces ateliers Faber et Maslisch en France. Merci beaucoup, Roselyne, pour ton temps.
Ça m'a fait plaisir, Stéphanie.
À bientôt.
À bientôt.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes, ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil Sylvie Desc, D-E-S-C, tiré du bas, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.